Jacques Meurant, bienvenue à Fréquence Mistral. On est heureux de vous recevoir régulièrement. Vous allez aujourd'hui nous parler de votre dernier un essai. Les femmes de Jean Giono, secret et passion. Un travail qui vous a demandé de nombreuses années de recherche.
Oui, je crois que depuis au moins une trentaine d'années, je me préoccupe de ce sujet parce qu'il y a eu tellement de mensonges, tellement de non-dits que mes découvertes au fur et à mesure de ce temps et de la documentation m'ont conduit un jour à décider d'écrire cet essai.
Alors, Les femmes de Giono, secrets et passions, c'est un titre que vous avez souhaité provocateur.
Oui, je l'ai souhaité provocateur parce que je voulais justement voir cesser ce que j'ai cru par naïveté et qui est la vérité enfin dévoilée. Alors, bien sûr, je ne suis pas le premier à avoir fait des tentatives, mais je crois que je suis celui qui est allé le plus loin concernant notamment deux des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la vie et dans l'œuvre de Jean Giono. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, et c'est cela qu'on nous a caché depuis que je suis membre de l'association Giono, c'est-à-dire depuis maintenant 49 ans, puisque j'ai commencé à adhérer en 1973. Donc, je dirais que ce premier motif a été essentiel pour moi, c'est rétablir la vérité pour découvrir notamment un personnage, Giono, qui n'est absolument pas celui que encore aujourd'hui on veut bien nous présenter. Et quand je dis « on », je pense à tous ceux qui ont gravité autour de l'écrivain que j'ai connu, que je connais encore, et qui n'ont pas cessé jusqu'en 2020, dans un ouvrage paru dans la Pléiade, de ne pas dire les noms de deux de ces femmes, de ne pas oser dire le nom de ces femmes, ce qui est pour moi une lâcheté et une hypocrisie, je le dis avec beaucoup de netteté. Si vous me permettez, je dirais, à titre préliminaire, que certes, je garde depuis 1957-58 une admiration sans borne pour le romancier Giono. Giono est un génie de notre littérature, c'est indubitable. Par contre, au fur et à mesure de ses découvertes, au fur et à mesure que j'ai balayé les mensonges, Giono, l'homme Giono, m'apparaît éminemment critiquable, voire parfois un personnage assez détestable. C'est clair. Alors bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde.
Alors pourquoi cette envie de parler de ces côtés détestables, alors à une époque où c'est justement d'actualité de juger un auteur, un écrivain, et de le séparer de l'homme qui peut être...
Alors, ce côté détestable, il apparaît notamment dans ses relations avec ses maîtresses. Par exemple, il y en a une qui se situe dans les années 1950, très peu connue, qui s'appelle Taos Amrouche. Giono a été particulièrement désagréable avec cette femme qu'il invitait à venir à Gréoux-les-Bains. Elle venait de Paris, elle attendait 3 jours et il ne répondait pas au rendez-vous. Et puis, quand elle a été malade, il n'a plus voulu en entendre parler, etc. Mais c'est surtout, si vous voulez, cette période essentielle pour moi qui part de 1934 et qui va aller jusqu'en 1944, cette période au cours de laquelle on voit la guerre qui apparaît et ce Giono dont encore aujourd'hui on s'interroge sur son attitude et personnellement dans le livre J'essaie, sans être un historien, parce que ça c'est un travail d'historien qui se fera un jour, je l'imagine, j'essaie tout de même de donner des éléments pour qu'un jour on nous dise quelle était exactement la position qu'il a adoptée. Alors personnellement, j'ai mon idée sur le sujet. Indubitablement, cette période de sa vie au cours de laquelle il est fou d'amour, je dis bien fou d'amour pour une femme qui s'appelle Blanche Meyer, qui est l'épouse du notaire de Manosque, eh bien, cet amour insensé parfois explique des attitudes pendant la guerre vis-à-vis du régime de Vichy, vis-à-vis des Allemands, c'est-à-dire des nazis. Tout cela trouve des explications dont on n'a jamais voulu nous parler.
Alors, vous détenez ces sources d'où ? Comment vous avez fait ces enquêtes ?
Alors, il y a plusieurs sources. Il y a d'abord de très nombreux écrits qui ont été fournis à divers moments, à divers endroits. Le regretté Jacques Ménie, qui est mort en juin de cette année, m'a apporté énormément de documents qu'il glanait, qu'il découvrait, et que j'ai bien sûr examiné, analysé et conservé. Il y a des témoignages, j'ai eu la chance de connaître deux personnes. La première, qui était la fille d'Hélène Laguerre, cette importante maîtresse, 1935-1938, la fille d'Hélène, Jacqueline Cassagnol, qui avait 90 ans quand je l'ai rencontrée en 2010, que j'ai rencontrée à nouveau en 2012, jusqu'à fin 2012, et puis elle est décédée à la fin de l'année, donc j'ai eu cette chance de la voir. Il y a eu la fille de Blanche Meyer, Jolène, que je suis allé voir en 2015, 16, 17, et que j'ai revue ensuite en 2019, et qui est morte en 2019. Des témoignages, et enfin, une documentation inestimable, les lettres de Jeannot à deux de ses maîtresses. Alors, l'une de ses maîtresses, Hélène, 1938, 996 lettres qui sont dans l'université américaine de la ville de Bloomington, dans l'Indiana. Et j'ai eu la chance de pouvoir les consulter, de pouvoir prendre des copies, etc. Et puis, une autre source, eh bien, c'est des lettres de Jean Giono monumentales qui ont été découvertes grâce à un personnage bien connu qui s'appelle Nissen. C'est le fondateur de Actes Sud, Hubert Nissen, qui avait été informé par Gallimard qu'aux États-Unis, à Yale, dans le Connecticut, donc, à l'université, à la bibliothèque de Yale, 1500 lettres de Jeannot représentant 3300 pages que j'ai pu consulter, que je peux. Et le premier personnage qui m'a parlé de ces lettres, c'est l'écrivain Pierre Magnan, qui possédait lui aussi ces copies de correspondance. Donc tout ça amassé permet de faire de développer des moments de la vie de Jeannot d'une façon extrêmement intéressante. Par exemple, au début de la guerre, en 1940-41-42, il publie un livre dont on parle peu, qui s'appelle « Triomphe de la vie », à un moment où la France est envahie, où la guerre, où l'armée française est battue, où le régime de Vichy s'installe, il écrit « Triomphe de la vie ». Ben, pourquoi écrit-il cela ? Personnellement, je pense qu'il l'écrit parce qu'il est, à cette époque-là, favorable au régime qui se met en place. C'est clair.
Alors, vous faites partie, évidemment, de l'association Les Amis de Jeannot depuis 1973. Comment est perçu votre livre aussi par rapport aux membres de cette association ?
Alors, je ne le sais pas directement, mais certaines personnes n'ont pas hésité à me dire « Ne vous inquiétez pas, tout le monde a lu votre livre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ?» Ce que je pense, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont lu et qui ne souhaitent pas l'apprécier parce que ce serait se mettre à dos la descendante qui ne l'a certainement pas lu, elle, ça ne m'étonnerait pas. Mais par contre, certains de ces mêmes membres, et non des moindres, m'ont d'ailleurs félicité pour avoir osé parler de certaines de ses maîtresses, parce que je viens d'en citer deux, et j'en cite six en tout, et j'en étudie quatre. Parce que les deux autres, celle que j'appelle Madame Devey, ben, je n'ai pas assez de documents. De même qu'une actrice pendant l'entre-deux-guerres, une actrice qui a joué certainement un rôle de maîtresse de Jean Giono, André Debar, qu'on retrouve dans les films Crésus, qu'on retrouve dans le film L'eau vive, et qui dirigeait la société des films Giono. Donc celle-ci a été créée. Donc cette femme, je n'ai pas d'éléments suffisants, et ces deux-là, ben, je les cite, notamment André Debar, je pense qu'indubitablement elle a été maîtresse, mais ça n'a rien à voir avec ce que je possède, la documentation que je possède sur un personnage assez peu connu, c'est Simone Théry, dont la mère, André Violis, était une grande journaliste. Et Simone Théry a été journaliste après avoir été agrégée de lettres. Elle a été journaliste à l'Humanité. Elle était donc très communiste, si vous me permettez l'expression. Et elle a vécu une relation amoureuse avec Giono de 1931 à 1934, à peu près. Et Giono, là, également, était complètement déraisonnable parfois dans ce qu'il lui proposait. J'ai des documents dans lesquels il lui propose de vivre avec elle à quelques kilomètres de Manosque, etc. Enfin, bon. Et puis, il y en a d'autres. Donc, j'ai parlé de Tao Samrouche, qui, elle, n'a pas été inspiratrice. Je ne trouve pas de traces dans l'œuvre de Giono, l'œuvre romanesque. Je ne trouve pas de traces de Tao Samrouche. Par contre, elle a écrit un roman qui s'appelle « L'amant imaginaire ». C'est Jean Giono, cet amant imaginaire, qu'elle appelle Marcel Arens, qui n'est pas du tout imaginaire. Voilà. Et puis, les deux que j'ai cités au début, Hélène Laguerre, qui, elle, joue un rôle essentiel dans l'œuvre politique de Giono. Je ne dirai jamais assez que Giono a écrit une œuvre politique, ce que l'on ne trouve pas chez les biographes qui sont des littéraires. Giono a écrit une œuvre politique avec, en permanence, la présence d'Hélène. Et cela ressort explicitement des lettres que j'ai pu consulter.
Alors, vous étiez toujours admiratif des œuvres de Giono pendant de nombreuses années. Est-ce que d'avoir fait ces recherches vous ont amené à un autre... jugement de, ben si on peut dire jugement, c'est un peu un dur.
Peu. Oui, alors non, je persiste à voir dans son œuvre romanesque, dans cette œuvre littéraire, un des grands, le plus grand romancier du XXe siècle. C'est un personnage, c'est l'œuvre de Giono. Moi, qui ne suis que très modeste. Je ne suis pas un littéraire, je n'en ai pas fait ma profession, bien sûr, mais je persiste à lire son œuvre et à me régaler de ses chefs-d'œuvre, et notamment du Hussard sur le toit, qui est pour moi le sommet de l'œuvre jeunienne. Par ailleurs, son œuvre politique, je l'apprécie, puisque moi, j'ai fait de la science politique pendant un certain temps à l'Université de Paris 2, jusqu'au doctorat. Donc, cette œuvre politique, elle est magnifique également, si l'on imagine qu'elle est une invention, car Giono n'a aucune culture politique au départ. Donc, vous voyez, mais je crois que ce qu'on retiendra de lui, ce n'est pas cette œuvre politique qui m'a intéressé, c'est notamment cette deuxième manière qui démarre à partir de 1944-45 et qui est une œuvre dont l'inspiratrice essentielle est Blanche, notamment ce roman dont on parle peu, qui s'intitule « Pour saluer Melville », dans lequel l'héroïne s'appelle Adelina White, et Jean Giono écrit, et ça c'est merveilleux, il écrit à sa maîtresse « Vous n'avez pas à être jalouse d'Adelina, puisque c'est vous. » Adelina, Blanche, Blanche, White. Donc, tout cela. Et puis surtout, le hussard sur le toit, Pauline de Théus, il lui dit je n'arrête pas de vous voir et de penser à vous pendant tout le temps que j'écris le hussard sur le toit. Donc, il y a pour moi deux choses dans ma démarche. Il y a le souci d'aller contre les mensonges que l'on a entretenus pendant les 49 ans où j'étais membre de l'association. Je le suis encore aujourd'hui. Ça, c'était une chose que je voulais, à la fin, voir éclater. Cette hypocrisie permanente de personnes qui nous évoquent un personnage imaginaire. Ben non, il n'est pas du tout imaginaire. C'est une femme, elle existe, etc. Donc, de la même façon, remettons les choses en place. Giono n'aimait pas les résistances, et n'aimait pas la résistance. Il a aidé des résistants, mais il n'empêche qu'il dit des choses innommables sur certains résistants. Notamment l'un d'entre eux qui est mort, qui est tué par un milicien à Manosque. Bien, et ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, je crois que ce que j'ai ouvert, c'est cette possibilité maintenant d'étudier en quoi ces femmes ont joué un rôle. Hélène l'égérie, Blanche l'inspiratrice, la muse de Giono, la muse. Et elle le dit elle-même, car j'ai eu cette chance aussi, grâce à sa fille Jolène, je possède la copie des mémoires de Blanche. C'est extraordinaire. Là, elle apparaît comme telle qu'elle est et non pas telle qu'on peut l'imaginer. C'est une femme qui est prétentieuse, qui est volage, qui est dépensière. Tout ce que, vous voyez tous ces éléments-là. C'est vrai, mais c'est une femme qui est profondément amoureuse d'un homme qui est fou d'elle. Et elle est présente dans toutes les œuvres d'après la guerre, présente partout.
Donc ce livre, Les femmes de Giono, secrets et passions, par Jacques Meurant, vous-même donc avocat honoraire du barreau de Strasbourg. Vous avez enseigné, je lis la quatrième couverture, vous avez enseigné le droit à l'université Robert Schuman pendant plus de 30 années et vous êtes auteur de 5 romans et d'un essai sur le pacifisme de Jean Giono. Vous avez donné de nombreuses conférences en France ainsi qu'en Allemagne et vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association des Amis de Jean Giono. Vous continuez les conférences ?
Alors pour le moment, je n'en ai plus en vue et d'ailleurs je suis un peu épuisé ou disons que le sujet est épuisé pour moi. Mais je voudrais revenir un instant sur la première œuvre que j'ai écrite qui était un essai sur Jean Giono, vous l'avez cité, c'est Jean Giono et le pacifisme. Mmh. Je dois dire que je ne suis pas content de cette œuvre parce que j'ai cru ce qu'on me disait. Donc, certaines choses ne sont pas exactes, mais parce que j'ai été, je le répète, naïf. Par exemple, j'insiste beaucoup, c'est 2012, puis il y a eu des rééditions jusqu'en 2015, il me semble. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait, parce que c'est ce qu'on m'a raconté, que Jean Giono avait aidé, beaucoup, beaucoup aidé la résistance dans la région, c'est-à-dire notamment au Contadour, etc. Alors, c'est vrai, et je le dis, je l'écris, qu'il a aidé certaines personnes qui sont des résistants. Il les a aidés. En les protégeant, mais c'est surtout vrai qu'il a aidé des jeunes gens à éviter le service du travail obligatoire en Allemagne, parce que ces jeunes gens, eux, n'étaient pas des résistants. Donc, vous voyez, il y a déjà une différence. Et puis, deuxièmement, on nous donne comme exemple de cette amitié qu'il aurait, l'amitié que lui portait le plus grand résistant basalpin, basalpin et alpin, c'est Louis-Martin Bray, assassiné par en 1944 par la milice, par la Gestapo. Bien, et ben pour moi, c'est faux. C'est faux. Et on nous donne comme exemple une lettre écrite par Martin Bray en 1929, dans laquelle il dit à Giono qu'il l'admire. Bon, oui, mais nous ne sommes plus en 29, nous sommes en 43. Eh bien, Martin Bray organise et participe personnellement, il est colonel, participe personnellement à un attentat contre Giono. C'est l'explosion une explosion qui a lieu dans la nuit, dans la soirée de novembre 1943, qui va déchiqueter la porte d'entrée de la maison. Et on nous dit, oui, c'est un pétard, c'était pour lui faire peur. Or, l'étude possible des rapports de gendarmerie, des rapports de la police locale, conduisent à constater que ça n'est pas un pétard. C'est véritablement un attentat contre Jean Giono, qui et cet attentat qui a été perpétré avec la présence de Louis Martin Bray, colonel, colonel Noël également, bien connu ici, et un troisième dont j'ai oublié le prénom, peu importe, ça n'est pas un pétard, c'est du plastique. Or, moi qui ai été officier de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, je sais la qualité que peut avoir le plastique quand il explose. Et Giono, dans une lettre à sa maîtresse, dit « J'ai échappé à la mort par miracle. » Et c'est vrai. Alors, si un de vos amis essaie de vous assassiner, vous me direz si c'est vraiment votre ami. Voilà.
Vous allez dédicacer ce livre que vous avez déjà bien vendu, « Les femmes de Jean Giono, secret et passion, espace littéraire L'Harmattan ». Vous allez le dédicacer encore cet après-midi à Riez.
Alors, pas cet après-midi. D'accord. Je vais avoir l'heure et la date de la prochaine dédicace à Riez.
Et vous, certainement, vous allez le dédicacer aussi à Digne.
Alors, c'est déjà fait deux fois.
D'accord.
Et j'ai eu le plaisir d'avoir un très bel article de notre ami Jean Dupré, qui est donc
de la Provence.
À la Provence. Mmh. Et puis, donc à deux reprises. Et la Provence a sans doute, la première fois, fait de la publicité, puisque la deuxième fois, la librairie de la presse, avec Noémie, n'avait plus de livres suffisants. Au moment où, le samedi où je commençais ma dédicace, donc il a été prévu la veille d'aller en emprunter à la librairie de Riez, parce que nous en avons vendu une quinzaine la première fois, et un peu plus, je crois, la deuxième fois. Donc, les librairies se sont prêtées entre elles. Et la chose, maintenant, est régularisée. Et alors, il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est ce qui va se passer en octobre, les 8 et 9 octobre. C'est à Château-Arnoux-Saint-Auban, où il y aura le Festival du Livre, et où je suis invité à présenter cet ouvrage, mais avec une soixantaine d'autres auteurs et éditeurs. Donc ça sera, disons, à peu près le sommet de ce qu'on peut faire actuellement. Et j'ai un autre projet qui est en cours de préparation. Mm-hmm. C'est grâce à un de mes lecteurs assidus, un historien important, Mon éditeur, qui a une attachée de presse qui s'occupe de moi, et d'autres, mais de moi, mon éditeur prépare un dossier pour le mois de janvier 2023 à Nîmes, où il y a le Festival de la biographie, et avec des grands noms. Et ça me plaît beaucoup de penser que ça puisse exister et fonctionner. Donc, un programme un peu chargé, mais peut-être des présentations du livre, mais pas de conférence en vue pour le moment.
Oh, déjà, ça vous fait beaucoup de travail, oui. Parce que c'est un exercice encore bien particulier, oui. que de faire la promotion de son livre. Oui. Mais avec la parole que vous avez, vous n'avez aucun souci.
Peut-être, mais disons que... J'aime beaucoup m'entretenir avec des personnes qui viennent. Je vous donne un exemple. Je crois que c'était à Puy-Moisson. Une dame vient et me dit « Bon, il faudrait que je vous achète votre livre, mais ça m'énerve parce que je ne suis pas d'accord avec vous. » Je lui ai dit « Madame, faites ce que vous voulez, mais vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. » Et nous avons un peu discuté parce qu'elle considérait que je n'avais pas tout à fait le droit de présenter ce Giono, dont je viens un petit peu de parler, parce que ça détruisait une image qu'elle avait de ce bon père de famille, de cet homme fidèle à son épouse, que je démolis, bien évidemment, en disant qu'il n'a pas cessé d'avoir des maîtresses, ça, c'est dérangeant. Je précise tout de même qu'au moment où je publie ce livre, il y a tout un processus qui s'est mis en place depuis au moins l'année 2003, si je me souviens bien, lorsque, mais c'est peu connu, mais ça existe, lorsque Hubert Nissen, que j'ai cité, présente le sujet à l'Académie royale de Belgique, l'Académie de littérature française de Belgique, dans lequel il parle de ces 3300 pages qui sont exclues de la publication. Et c'est le début, mais il se trouve que l'Académie, sa secrétaire générale, a eu la gentillesse de m'offrir l'article dans la revue de l'Académie, donc, mais qui lit, à part les académiciens belges et peut-être quelques Français, qui lit la revue de l'Académie belge, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, il y a un professeur que j'ai bien connu, qui était professeur à Aix-en-Provence, Jacques Viard, qui, dans un article tout à fait inconnu de tout le monde jusqu'à une date récente, Jacques Viard, qui nous parle de lettres que Jeannot aurait envoyées et qu'il cite. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, tout doucement, le personnage s'éclaire. Et je dois dire qu'en 2019, au moment où s'ouvre l'exposition Giono-Mussem, le livre de mademoiselle Emmanuelle Lambert éclaire beaucoup, puisqu'elle a des phrases. Jean Giono a eu des maîtresses, beaucoup de maîtresses. Donc, il me restait à compléter et à dire ce que j'avais, l'intention que j'avais en écrivant ce livre. J'ai eu des précurseurs, des prédécesseurs, mais toujours un petit peu dans l'incertitude de ce qui était dit. Voilà.
Jacques Meurant, merci. On rappelle donc que ce livre, on peut le trouver, cet essai, Les femmes de Jean Giono, secret et passion, dans les librairies. Le stock est à nouveau réapprovisionné.
Ah oui. Parce que les éditions L'Harmattan ont un certain nombre de défauts. La relecture n'est pas excellente. Vous verrez que j'ai ajouté à ce livre une liste de ce qu'on appelle des errata. Mm-hmm. Certaines fautes sont de mon fait. Une erreur sur l'orthographe d'un nom propre, des choses comme ça, c'est de ma faute. Il y a aussi des coquilles, mais à part ça, le fonctionnement, l'édition se fait très régulièrement et disons que la diffusion est excellente. Et puisque cet ami dont je vous ai parlé, Annick Stevenson, qui est née en Haute-Savoie, mais qui vit maintenant depuis fort longtemps aux États-Unis, qui a un passé glorieux puisqu'elle a été envoyée par les Nations Unies, elle a été engagée, employée, elle a fait des reportages en Asie et loin. Cette femme me dit, eh ben, j'ai reçu votre texte, votre livre, une semaine et demie après l'avoir commandé. Ce qui prouve qu'il y a une diffusion aux États-Unis, bien évidemment. Vous voyez, donc, c'est un progrès par rapport à ce que nous avons, à ce que j'ai connu avant, qui était cette diffusion merveilleuse d'un homme que j'apprécie toujours beaucoup, qui s'appelle Jean Darrow, qui a été le créateur des éditions Parole et qui a été celui qui m'a lancé dans l'édition, puisque mon premier ouvrage publié que vous avez cité, Jean Giono et le Passivine, c'est grâce à lui qu'il a paru.
Merci Jacques Meurant.
Je vous remercie très vivement. Je suis heureux d'avoir la chance d'être reçu par vous. Et je remercie tous ceux qui travaillent avec vous, que j'aime beaucoup, les gens de Manosque notamment, que je connais, vous-même. Je pense que votre radio est essentielle à la vie culturelle et j'en profite.
Merci Jacques Meurant. Les femmes de Jean Giono, secret passion, c'est aux éditions L'Harmattan. Merci Jacques et à bientôt. Au revoir.